au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Une histoire inouïe, un entretien vérité et un grand destin en feuilleton. C'est la nouvelle formule du rendez-vous que nous donne Franck Ferrand chaque jour sur Europe 1 au cœur de l'histoire. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Si j'en crois à vos réactions depuis lundi, vous êtes très nombreux à l'apprécier cette nouvelle formule et je dois vous dire que ça me fait plaisir parce que elle me paraît à moi aussi assez excitante. Tout à l'heure, pour finir l'émission, nous retrouverons notre Charlie Chaplin au sommet de son art dans ses années 20 et 30 qui ont vu naître sous ses caméras tant de chefs-d'œuvre, vous savez, du cirque à la ruée vers l'or et bien sûr les lumières de la ville, etc. On va revenir sur tout ça.
Mais avant les grandes œuvres de Charlie Chaplin, vous aurez évoqué un autre monstre sacré, Victor Hugo en personne. Votre invité du jour vient de lui consacrer un ouvrage, c'est la journaliste politique Christine Clair.
Oui, je suis ravi de recevoir Christine Clair et nous en profiterons pour évoquer une exposition également qui se tient en ce moment à la maison de Victor Hugo, place des Vosges. Pour le moment, c'est un des épisodes, je le disais il y a un instant à Elena, un des épisodes les plus incroyables de la Seconde Guerre mondiale que je vous propose de revivre, l'étrange, la rocambolesque évacuation de Mussolini par un agent spécial aux ordres d'Hitler.
Et voilà un programme bien rempli.
Eh bien allons-y, nous n'avons pas une minute à perdre.
Europe 1,
14h, 15h, au cœur de l'histoire.
Le dimanche 12 septembre 1943, à midi et demi, le soleil brille sur l'aérodrome de Pratica di Mare. On est tout près de Rome. À l'ombre des baraques de ce terrain d'aviation, une centaine d'hommes est là qui s'activent en tenue d'aviateur, lunettes au front. Ils vérifient leurs équipements, des grenades, des mitraillettes, détonateurs, rations alimentaires pour au moins 5 jours. Tout est prêt, ça pèse une tonne, soupire un des hommes. Or, ce mois de septembre 1943 est particulièrement chaud. Heureusement, il y a disposé dans un coin du hangar toutes sortes de fruits frais qui permettent un peu de se rafraîchir. Ces hommes, on les traits tirés, il faut vous dire qu'ils sont debout depuis l'aube. Et on sent parmi eux la tension, la nervosité. Sur un tableau noir, une carte a été sommairement dessinée. On y distingue des emplacements destinés à une dizaine d'avions, des avions qui remorquent des planeurs. C'est une histoire de planeurs que je vais vous raconter cet après-midi. Pas très loin du tableau, deux hommes sont en pleine discussion. L'un d'eux est grand, quand je dis il est grand, il est même très grand, il mesure près de 2 mètres, il est costaud, il fume une cigarette, et sur sa joue, une balafre, sans doute la trace d'un duel. Cette balafre lui donne un côté un peu baroudeur. Il s'appelle Otto Scorzeny. C'est un officier SS de 35 ans, responsable de l'unité commando d'élite Friedenthal. Or, il a reçu quelques jours plus tôt un ordre d'Adolf Hitler en personne, l'ordre d'aller chercher Benito Mussolini. Vous savez que Mussolini, c'était l'allié historique d'Hitler. Puisqu'on parle en ce moment de Charlie Chaplin, rappelez-vous la caricature qu'avait donnée non seulement d'Hitler, mais aussi de Mussolini.
Dans le dictateur.
Charlie Chaplin dans le dictateur. Bon. Ce qu'il faut que je vous dise à ce stade, c'est que depuis le 25 juillet de cette année 1943, le Duce n'est plus du tout le maître de l'Italie. Il a été démis de ses fonctions de président du Conseil par le roi. Il a été arrêté, il a été incarcéré, autant vous dire qu'il doit être récupéré à temps par les nazis si ces derniers ne veulent pas que les alliés ne mettent la main sur Mussolini en vertu d'un traité qui a été signé avec le nouveau gouvernement italien. Vous mesurez donc l'importance de la mission qui est en train de se monter, mission secrète bien entendu, mission extrêmement périlleuse, la réussite ou l'échec de cette mission peut avoir des conséquences décisives sur l'issue de la guerre. Alors, tout à coup, alerte, un homme court vers Scorzeny, des bombardiers ennemis approchent. Alors, on se dit, mais que se passe-t-il? Ben oui, on les entend déjà qui vrombissent dans le ciel. Un ordre tombe, que tout le monde se rassemble à l'intérieur de l'aérodrome, vite. Les sirènes d'alerte sont assourdissantes. À peine le temps de se réfugier dans les baraques, les premières bombes explosent. C'est un moment infernal, c'est toujours terrible, ces bombardements, bien entendu. Ça dure à peu près une vingtaine de minutes. Le rêve s'achève un petit peu avant 13h. C'est la fin de l'alerte. Scorzeny, à ce moment-là, se précipite sur la piste pour y constater les dégâts. On peut dire que le ciment des pistes a souffert, mais les appareils, eux, sont indemnes. Il ne faut pas perdre un instant. Scorzeny écrase sa cigarette et il donne l'ordre d'embarquer. Les hommes courent, grimpent dans leur planeur. En tout, il y a 108 soldats, donc, répartis dans 12 appareils, ce qui fait donc 9 par planeur. Scorzeny est habitué, lui, à ces engins rudimentaires. Vous imaginez des tubes en acier qui forment la carcasse du planeur, simplement enveloppés d'une toile, rien de plus. Il y aurait de quoi effrayer un non-initié. Mais Scorzeny est un dur, il a connu bien pire, avec 8 autres hommes, donc. Les voilà serrés comme des harengs dans ce planeur. C'est tout juste s'il reste de la place pour les sacs. Les bruits de moteur se font entendre. Le planeur roule déjà sur la piste. Il est tiré, bien sûr, par son remorqueur. Il décolle comme les 11 autres. Avec leurs avions remorqueurs, les conditions de vol sont très bonnes ce jour-là. Pas de vent, ciel dégagé, même si en vérité on ne peut rien voir du paysage quand on est dans le planeur. Les fenêtres latérales de l'appareil sont complètement recouvertes de cellophane et dedans la chaleur est étouffante. De grosses perles de sueur coulent sur tous les visages. Scorzeny est tellement tassé dans le petit appareil qu'il a du mal à déplier sa carte, pourtant une petite carte qui lui permet de vérifier la position indiquée par le pilote. Et soudain, il sursaute. Le pilote, depuis son remorqueur, annonce via le téléphone de bord « Avion 1 et 2 disparus, qui prend le commandement ?» Et là, Scorzeny n'hésite pas, il signale au pilote « Prendrai moi-même le commandement jusqu'à l'objectif. » Scorzeny sort son canif, il découpe un trou dans la toile du planeur, juste assez pour repérer le paysage, pour voir les montagnes du massif des Apennins avec leurs cimes enneigées. Le paysage est magnifique. Un peu plus loin, grâce à des jumelles, Scorzeny constate que des parachutistes et des blindés sont bien là où ils étaient prévus, environ 300 hommes. Ils sont en route vers la gare d'embarquement du téléphérique qui monte au Gran Sasso. Ce Gran Sasso, c'est une sorte de pic, 2912 mètres. Tous ces hommes au sol sont commandés par Harald Morse. Scorzeny réprime un léger sourire. Tout se passe comme prévu. Les renforts sont là. Ils seront bien utiles pour la suite des opérations. Et bientôt, le planeur se retrouve à hauteur d'un plateau d'à peu près 1800 mètres, le Campo Imperatore, qui est occupé par une imposante forteresse en forme semi-circulaire, forteresse en béton avec de petites fenêtres qui font comme des meurtrières. Mais en vérité, c'est un hôtel, figurez-vous, un hôtel ouvert quelques années plus tôt pour une clientèle fortunée et désireuse de s'adonner au ski d'altitude. Le paysage n'est pas pour dépayser Scorzeny. Il a beaucoup parcouru les massifs de son Autriche natale. Il faut vous dire qu'il est venu ici 4 jours plus tôt en repérage. Il a pris des photos aériennes avant que des chasseurs anglais ne tirent sur son appareil. Un moment, ce jour-là, il a cru sa dernière heure arriver, mais en fin de compte, il s'en est sorti avec 3 côtes cassées. Autant dire que pour lui, c'est rien du tout. Ai-je besoin de vous préciser que c'est ici, derrière une des fenêtres de cet hôtel, que se trouve évidemment Mussolini? La prochaine étape, atterrir évidemment, facile à dire. Le pilote du remorqueur amorce un large virage. Scorzeny manque de perdre l'équilibre. Faut imaginer la concentration. C'est le moment décisif de l'opération. Faut trouver l'endroit prévu pour l'atterrissage, le seul où il soit possible de se poser. On est en planeur, je précise. C'est un engin très difficile à manier. La prairie, d'après les photographies, était en pente douce. C'était les photos qui avaient été prises 3 jours plus tôt. Seulement quand vous approchez de l'objectif, vous voyez qu'en fait, la prairie en question, elle est en pente et même en pente très abrupte. Erreur d'appréciation, on devrait toujours se méfier des photos prises de trop haut. Le pilote s'étrangle dans la radio. Qu'est-ce qu'on fait? Scorzeny sait que le sort de l'opération maintenant est entre ses mains. Atterrissage en piqué, dit-il, aussi près de l'hôtel que possible. En piqué. Son chef, le général Student, lui avait pourtant interdit cette manœuvre. De toute façon, c'est trop tard. Tant pis si au pied de l'hôtel, la garde italienne leur réserve un accueil fumant. Le planeur descend maintenant à pleine vitesse. Les hommes s'accrochent tant bien que mal aux tubes. Ils cramponnent les tubes, bien entendu. Ils sont secoués dans tous les sens. Soudain, une très violente secousse. Quelque chose craque, se brise, scorche. Scorzeny ferme les yeux, encore pas mal de secousses, de plus en plus violentes, le bruit est infernal.
Europe 1, au cœur de l'histoire,
revient dans un instant.
Europe 1, au cœur de l'histoire,
Franck Ferrand.
et Franck, cet après-midi sur Europe 1, vous nous parlez de la tentative d'évacuation de Mussolini par ce dénommé Otto Skorzeny à l'hôtel du Grand Sasso dans les Abruzzes en septembre 1943. Alors il y a une question que je me pose quand même depuis le début de votre récit, je me demande comment Mussolini s'est retrouvé détenu dans cet hôtel.
Oui, c'est vrai, vous avez raison, il faut revenir sur cette question. Il faudrait d'ailleurs retourner un petit peu en arrière dans la nuit du 24 au 25 juillet 43. Le Grand Conseil fasciste a voté ce soir-là l'éviction de Mussolini par 19 voix contre 8. Le lendemain, il était convoqué par le roi d'Italie, démis de ses fonctions de président du Conseil et donc arrêté. Alors d'abord, il est enfermé dans une caserne de carabiniers, il est dans la capitale italienne, hein, il est à Rome. Et puis ensuite, on va l'envoyer sur l'île de Ponza, puis sur l'île de la Maddalena, avant d'être conduit à la fin du mois d'août à cet hôtel, donc l'hôtel du Campo Imperatore. Il a été emmené là-bas pour plus de facilité à bord d'une ambulance de la Croix-Rouge. Et durant cette période, bien entendu, Hitler ne reste pas les bras croisés. Il réunit son état-major et il cherche à savoir où se trouve Mussolini pour le faire libérer, pour qu'il ne tombe pas dans les mains des alliés. C'est donc Hitler qui va directement envoyer ce commando SS et envoyer Skorzeny chercher Mussolini sur son lieu de détention. Skorzeny qui va donc retrouver la trace de Mussolini au Campo Imperatore et qui lance cette opération qui, dans l'histoire, est entrée sous le nom de Opération Eich.
Oui, sauf que l'opération, Franck, tourne à la catastrophe.
Oui, alors on était avec notre planeur là, qui vient de s'écraser littéralement. Je peux vous dire que la carcasse hérissée de tubulures et de toiles déchirées n'est pas belle à voir. Quelques coups de caniche supplémentaires pour déchirer ce qui reste de la carcasse. Le canif en question, vous aurez compris que c'est celui de Skorzeny qui donc est vivant. Et il n'est pas le seul, hein. Pas mal d'hommes vont s'extraire avec lui des planeurs. Après cet atterrissage en catastrophe, il faut vraiment faire vite. L'officier SS sait, de source sûre, grâce à un espion qui est infiltré sous la couverture d'un médecin militaire, il sait que le Campo Imperatore est une zone militaire ultra surveillée, truffée d'hommes en armes. À ce moment-là, ils avaient décollé, je vous ai dit, une heure à peu près. Là, il est 14 heures. Skorzeny déplie donc ses 2 mètres, ses côtes cassés lui font mal, c'est lui qui racontera tout ça, elles lui font même très mal. Peu importe, c'est pas le moment de s'en soucier. L'officier est suivi du général Fernando Soletti, qui est un Italien fidèle au fascisme, et de 7 hommes. Les armes à la main, il court en direction de l'hôtel où se trouve Mussolini et les carcasses de planeurs, ben, on les laisse derrière, hein, elles sont déjà loin. Près de l'hôtel, les hommes en question vont tomber sur un premier carabinier qui est littéralement frappé de stupeur face au commando. Aucune réaction. Skorzeny hurle « Mani in alto », ce qui veut dire « haut les mains ». Et le carabinier n'a pas le choix, il obéit. Avec quelques hommes, Skorzeny entre dans l'hôtel. Dès le seuil, il aperçoit un poste émetteur sur lequel un soldat est affairé à transmettre des messages. Un coup de pied, le chef du commando fait valser la chaise. Il casse le poste d'un coup de crosse de mitraillette. Seulement, la pièce en question est un cul-de-sac. Donc, on fait demi-tour. Skorzeny longe le bâtiment et il va se retrouver en contrebas d'une haute terrasse. À ce moment-là, on lui fait la courte échelle. On a un peu l'impression d'être dans ces films, vous savez, des années 60 qui racontaient tous les hauts faits d'armes, tous les exploits de la Seconde Guerre mondiale. On le fait donc la haute échelle. Il serre les dents, il s'élance, il enjambe la balustrade, un coup d'œil circulaire et là, à une fenêtre du premier étage, un homme chauve observe les opérations. Il a les bras croisés. Mais est-ce que... Oui, c'est Mussolini. Avec ses hommes, Skorzeny se rue vers l'entrée de l'hôtel forceresse. Au même moment, ses renforts des parachutistes envahissent les bâtiments. Des carabiniers tentent de sortir trop tard. À coups de crosse, Skorzeny se fraye un chemin dans la mêlée. Alors ça hurle de partout. « Oh les mains !» etc. Vous imaginez. Le plus fort dans cette histoire, c'est que personne... n'aura, du bout en bout, personne n'aura tiré un seul coup de feu. L'idée de Skorzeny d'emmener un général italien était une excellente idée. Ça sème une telle confusion parmi les carabiniers que, personne n'osera tirer, tout simplement. Skorzeny a donc traversé le hall en courant. Il monte à présent l'escalier 4 à 4, tout seul. Au deuxième étage, il défonce une porte. C'est la bonne, c'est la chambre de Mussolini. Skorzeny plaque 2 carabiniers contre le mur. Un officier le rejoint et fait sortir les 2 hommes. Et l'officier, désormais, se retrouve dans cette chambre qui est plongée dans la pénombre. Il touche au but, on peut le dire. Les services de renseignement avaient parfaitement fait leur travail, car Mussolini est bien ici, quasiment au garde-à-vous. Duce, lui dit Scorzeny, le Führer m'a envoyé auprès de vous pour vous libérer. Ah, Mussolini n'en croit pas ses oreilles, il lui fait l'accolade. Je savais que mon ami Adolphe ne m'abandonnerait pas, dit Mussolini. En attendant, évidemment, c'est une mêlée terrible dans l'hôtel. Le Scorzeny repense à un détail. Vous savez, on dit que Hitler aurait fait parvenir à Mussolini, à l'époque où il était enfermé sur l'île de la Maddalena, une caisse de livres. Et quand Mussolini a ouvert, il devait penser, lui, qu'il y avait sans doute des explosifs ou des armes dans la caisse.
Pour non, s'enfuir,
non, il y avait 24 volumes de Nietzsche. Bref, le chef du commando s'accorde une petite cigarette. Et faut dire que dans le stress de cet atterrissage en catastrophe, il ne s'est pas rendu compte que la température était vraiment glaciale. Avec le vent, il fait moins 15 degrés dehors. Plus froid que sur le front russe 18 mois plus tôt. Scorzeny jette un regard en coin à Mussolini. Il faut vous dire qu'il est surpris par ce qu'il a sous les yeux. Cet homme est vieux, il est presque maigre, son costume gris est devenu trop grand, il est fripé. Mussolini ne s'est pas rasé depuis plusieurs jours, son crâne est criblé de cheveux blancs, seul le regard paraît inchangé. Quant à la chambre, on dirait plutôt une cellule. Un poste de radio est posé sur une table, il y a des chaussons au pied du lit. Le Duce, celui que les actualités filmées ont tellement montré, vous savez, dans tous ces grands triomphes romains, etc., c'est devenu une espèce de silhouette pathétique. Il ne faut pas traîner, le moment est donc venu de l'évacuer. Des hommes attendent au bas du périphérique avec une voiture, seulement ça voudrait dire parcourir 150 km par voie routière jusqu'à Rome, ce qui est très risqué. Alors Scorzeny retient une autre solution. Mussolini, dit-il, doit être évacué tout de suite et par les airs. Et on va mobiliser un avion de reconnaissance, un Fieseler Storch, piloté par le capitaine Gerlard, qui doit se poser donc près de l'hôtel. Il est appelé par radio. En attendant son arrivée, le commando allemand, mais aussi des carabiniers italiens qu'on a désarmés, vont déblayer le terrain. On ôte tous les gros blocs de rochers qui pourraient empêcher l'atterrissage. Et voilà déjà l'avion qui arrive avec sa croix gammée sur l'empennage. Hein, on le reconnaît de loin. Scorzeny sort de l'hôtel avec Mussolini pour se protéger du vent glacial. Le Duce a revêtu son pardessus et un vieux chapeau de feutre sombre. Les Allemands lui expliquent qu'on va le conduire à Rome et puis de là, par avion, à Vienne, etc. Bene, dit Mussolini, qui serre les mains de ses libérateurs. On fait quelques photos pour immortaliser l'exploit. Et pendant ce temps, Scorzeny vient voir le pilote de l'appareil. « Je monte avec le Duce », dit-il. Alors, ce pilote veut même pas en entendre parler. Non, non, c'est trop risqué. Gerlard n'a pas tort. Scorzeny peut comprendre. Trois personnes dans un aussi petit avion pour parcourir 150 km jusqu'à Rome, c'est effectivement très risqué. Vous ai-je dit que Scorzeny pesait près de 100 kilos quand même, vous imaginez? Alors, il explique quand même à Gerlard qu'il n'y a pas, il n'y a aucun moyen de faire autrement, c'est le seul moyen pour que l'opération réussisse. Après tout, Scorzeny dirige le commando. Et Morse, le chef des parachutistes, a donné son accord. C'est donc entendu. Le moteur retentit. Il faut monter. Mussolini, qui jusqu'alors s'était montré à peu près normal, là, a l'air quand même très inquiet. Il faut vous dire qu'il a piloté lui-même. Il sait que tenir à trois dans un coucou pareil, c'est très dangereux. Mais Scorzeny ne lui laisse pas le choix. Il se place comme il peut derrière le second siège, celui de Mussolini, qui s'installe avec son chapeau de feutre vissé sur la tête. Le pilote abaisse sa main. Les soldats qui retiennent l'avion par les ailes lâchent prise. Scorzeny s'accroche à deux mains au tube d'acier de l'appareil. Et puis c'est parti. L'avion roule, il roule, il roule. La piste fait 60 mètres de long, mais au bout, il y a un précipice. Et l'avion n'a pas l'air de vouloir décoller.
Un instant, la suite de ce récit raconté par Franck Ferrand sur Europe 1.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Europe 1,
au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Avec le dénouement de cette incroyable histoire, Scorzeny a donc libéré Mussolini. Ils vont évacuer l'hôtel en avion, mais vont-ils réussir à décoller ?
Ça me fait sourire parce que je rentends Alain Decaux raconter cette histoire qu'il racontait divinement bien il y a des années de ça, bien sûr. Alors, l'avion peine vraiment à décoller. Il heurte le train d'atterrissage, heurte plusieurs rochers sur la piste. Et puis finalement, donc, à 5 mètres du précipice, l'avion file dans le vide. Et pendant plusieurs secondes, on pense qu'il va s'effondrer. D'ailleurs, à l'intérieur, tout le monde a les yeux fermés, vous imaginez. Et puis, juste à 30 mètres du fond de la vallée, hop, l'avion se redresse et va finalement décoller. Et alors, on dit que Mussolini, qui jusqu'alors était resté évidemment totalement muet, là, il se met d'un seul coup, il devient très disert, il raconte sa vie, il fait des grands gestes, etc. On est obligé de le faire tenir tranquille jusqu'à l'aéroport, enfin jusqu'à l'aérodrome, donc jusqu'au terrain de Pratica di Mare à côté de Rome. Atterrissage compliqué. Et puis, donc, on lui explique que de là, on va l'emmener à Vienne, d'où il regagnera Munich. Alors, du point de vue des nazis, l'exploit d'Otto Scorzeny tient du miracle. Nous dirions plutôt que ces neuf hommes dans leur planeur ont eu de la chance, disons. Hitler va décorer le chef du commando, il va en faire un chevalier de la Croix de Fer. Scorzeny mourra seulement en 1975 et c'est lui qui a écrit ce récit, bien entendu, à partir duquel on peut raconter toute cette histoire. Quant à Mussolini, à la tête de la République sociale italienne, c'est cette toute petite république au nord de l'Italie, ce régime qui est entré dans l'histoire sous le nom de République de Salo, il sera, Salo, S-A-L-O, il faut préciser là, étant donné de qui l'on parle, il sera de nouveau destitué, puis fusillé à Milan le 28 avril 1945 et pendu, vous avez sans doute vu ça dans vos livres d'histoire, pendu la tête en bas à la balustrade d'un distributeur d'essence.
Suivre sur Europe 1 dans le cœur de l'histoire, le troisième épisode que vous attendez tous du grand destin consacré toute cette semaine à Charlie Chaplin. Mais avant cela, Franck Ferrand, vous nous parlez d'un autre monstre sacré, le poète, dramaturge, écrivain, si ce n'est le plus grand écrivain français, Victor Hugo.
Eh oui, notre Totor national. Totor, c'était le nom que lui donnait justement Juliette Drouet. Bonjour Christine Claire.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous disiez à l'instant, cette histoire extravagante aurait plu à Victor Hugo. C'est vrai qu'il n'a pas connu l'aviation d'ailleurs. N'ose imaginer ce qu'il aurait pu écrire sur les...
Toutes les histoires extraordinaires lui plaisaient.
Oui, tout ce qui, tout simplement, se rapprochait d'une forme d'héroïsme et d'un dépassement de soi. C'est ça qui fascinait.
Oui, avec le rôle du destin, l'au-delà.
Eh oui, bien entendu.
La force des hommes.
Et la puissance romantique du ravin. Alors, avec vous, nous allons parler d'un Victor Hugo amoureux. Parce que vous êtes l'auteur dans la collection Amoureux, justement, dans cette collection des éditions Rabelais, d'un Victor Hugo amoureux. Il l'a été puissamment. On peut dire qu'il a fait souffrir quand même pas mal de femmes.
Puissamment. Oui. L'adverbe. Oui, j'ai trouvé. C'est un bon angle d'approche pour Victor Hugo, comme pour de nombreuses personnalités. Hein.
Il était un peu compulsif sur ce chapitre-là.
Très compulsif, mais vous savez, il avait une force inouïe. Il se baignait encore à 80 ans, qui équivalent à 98 d'aujourd'hui. Et donc, c'est un angle d'approche. On a dit qu'il était un des premiers féministes. C'est vrai qu'il est très attendri par les femmes, pas seulement sexuellement, mais par la condition des femmes. Et il faut voir ce que c'était à l'époque. Une femme qui n'était pas mariée, comme Juliette, lorsqu'il la rencontre, pouvait finir très mal et très vite.
Combien de lettres ont-ils échangé, tous les deux?
Quelque chose comme 50 000.
50 000 lettres, sa lettre.
On s'écrivait tous les jours. Il n'y avait pas de texto.
C'était les textos de l'époque.
Il se faisait porter des lettres jusqu'à 3 fois par jour.
On vous retrouve dans un instant, Christine Claire, pour évoquer ce géant, Victor Hugo.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand. Et cet après-midi, Franck Ferrand, pour nous parler des amours de Victor Hugo, et ils étaient nombreux, vous recevez Christine Claire, qui est journaliste et auteure de Victor Hugo, Amoureux, paru aux éditions Rabelais dans la collection amoureux.
Alors, bien sûr que nous allons revenir sur Juliette Drouet, qui est la grande affaire peut-être de la vie de Victor Hugo. Mais avant cela, parlons peut-être de sa femme légitime, dont il a été, lorsqu'il était tout jeune, vraiment, sincèrement, éperdument amoureux, Adèle.
Oui, il a été très très amoureux d'elle et il l'a respectée. Vous savez que... Il fallait se marier vierge. Donc, c'était le cas. C'était difficile pour Victor Hugo. Il a attendu 2-3 ans de fiançailles. Et ils ont eu 5 enfants. Et elle s'est lassée, Adèle. Elle s'est lassée de ses assauts.
Elle s'est lassée. On se demande si elle était... Si, c'est souvent comme ça. Les amours ne sont pas toujours, réciproques.
Voilà, mais en l'occurrence... Du moins, le désir physique n'est pas...
Oui, et dans son cas, on sent que quand même...
C'était pas un truc qui l'intéressait tellement. Voilà, pour résumer.
Et puis alors, il y a cette affaire terrible. Elle va finalement le tromper. Voilà. Avec qui? Avec le grand critique Sainte-Beuve.
Avec son meilleur ami, pratiquement. Ouais, c'est assez court. Qui lui était plus paisible de ce côté-là. C'était davantage des conversations, des écrits.
Victor Hugo ne cessera plus de tromper Adèle, et alors de façon quasiment frénétique à mesure que l'âge avancera. Mais à l'époque, on peut dire qu'il n'a sa première maîtresse qu'après qu'elle lui a vraiment fermé sa porte.
Absolument, dont il est assez inconsolable, et c'est seulement 2 ans après, qu'il tombe amoureux de Juliette, et elle le trouve très sombre, on lui fait répéter sa pièce au théâtre, Lucrèce Borgia, elle assiste à la répétition.
Elle
est complètement fascinée par cet homme, sa gravité, son côté sombre justement, et elle rêve de le séduire, et donc elle lui fait passer un petit mot en disant qu'elle a absolument besoin de lui demander conseil, et puis voilà, et c'est une nuit, elle l'entraîne chez lui, alors lui dit, lui écrit, ça pourrait faire une chanson d'ailleurs, hein, j'entendais tout à l'heure, en février 1802, je suis née à la vie, et en février 1833, je suis née à l'amour.
Comme c'est joli,
dans
hein.
tes bras, je n'oublierai jamais.
Et c'est un amour qui l'a fait vibrer toute sa vie.
Oui,
elle va être là dans l'ombre du grand homme.
C'est un amour tout de même très vite déçu, parce qu'au bout de moins d'un an, elle s'aperçoit qu'il ne la désire plus autant, elle se rend compte que, bon, alors il a son œuvre. En plus, il va se lancer en politique, ce qui n'est pas la moindre affaire, qui lui prend beaucoup de temps. Après, il va vouloir être élu à l'Académie. Enfin, il y a beaucoup d'ambition, beaucoup d'occupation, de mondanité aussi. Mais toute la vie de Juliette sera une vie de souffrance. Et à un moment, je l'appelle la mendiante. C'est-à-dire qu'elle, dans toutes ses lettres, elle demande à le voir davantage. Elle se demande qu'il fait. Et lui, il la rassure. Mais en même temps...
Il veut bien lui donner une partie de ses journées.
Voilà,
disons.
Une partie de ses journées. Et puis... Bon, si on se resitue dans l'époque, après tout, il se comporte plutôt mieux que la moyenne des hommes qui avaient de jeunes maîtresses, des actrices comme ça, parce qu'il va tout de même la loger, la faire vivre toute sa vie.
Mais... Et elle le suivra, c'est-à-dire lorsqu'il part en exil, que ce soit à Jersey, à Guernesey, à quelques pas
partout,
de la maison de Victor Hugo, il y a Juliette.
Elle a ce qu'on appellerait aujourd'hui un studio, pratiquement au pied de la maison.
Au point qu'elle finisse par faire partie de la famille, disons-le.
Oui, enfin, il faut très longtemps.
Très longtemps,
il faut,
oui.
Des années après. Adèle l'invite à un goûter de pauvre et finit par lui faire porter un fromage. Enfin, vous voyez, c'est timide comme réconciliation. Non, Juliette souffrira beaucoup des distances prises et d'un certain mépris de la famille, de ne pas pouvoir être présentée, de ne jamais être à ses côtés.
Et puis, elle va souffrir aussi d'être elle-même trompée, parce qu'il ne s'arrête pas là, bien sûr, Victor
bien
Hugo.
Sûr.
Il y a cette affaire magnifique,
bien
cette belle histoire que vous racontez avec Léonie, bien
oui,
entendu.
Oui, alors Léonie est la femme d'un peintre qui a acquis une certaine célébrité parce que ils sont allés au pôle Nord, ils sont redescendus, ils ont vu des ours blancs, alors ils viennent raconter ça dans les salons parisiens, finalement ça fait beaucoup d'effet. Et en outre, Léonie a une particule. Bon, on peut penser qu'elle est d'origine aussi modeste que Juliette, c'est-à-dire donnée, voilà. C'est-à-dire finalement très pauvre. Mais elle a su prendre les manières peut-être davantage et donc Victor la sort, elle, dans le monde, ce qui n'était pas le cas de Juliette.
Cette histoire avec Léonie Daunet est particulièrement violente.
C'est très fort parce qu'ils sont pris en flagrant délit d'adultère. Et à l'époque, Victor Hugo est pair de France, donc il est protégé par sa qualité. Il en est pas
par
très,
le roi,
il en est pas
oui,
fier
oui.
d'ailleurs. Il en est pas fier. Tandis qu'elle va faire de la prison. C'est vraiment au nom du roi, le commissaire de police qui arrive et elle va faire la prison. Ce qui va servir aussi à Victor Hugo, puisque tout lui sert, et en particulier les expériences des femmes qu'il aime, qui racontent soit leur pension, soit leur misère, soit dans le cas présent la prison de femmes, ce qui fera un épisode de plus des Misérables. Mais ce qui est terrible, c'est que Juliette va apprendre cette liaison parce que Léonie rêve d'avoir Victor pour elle et rêve que Victor quitte Juliette et fait porter un paquet de lettres. Et un jour, Juliette reçoit ce paquet de lettres. Elle croit que c'est des lettres qui lui sont destinées avec un ruban rose. Elle ouvre. Elle voit en effet des termes enflammés comme dans les lettres que Victor Hugo lui adressait,
oui,
et
oui.
ce sont des lettres adressées à Léonie. Et là, elle a manqué ce suicide. Et
vous qui êtes très habituée aux mœurs politiques, Christine Claire, ça nous rappelle certains.
Oui, ça m'a tout à fait rappelé, vous savez, épouse et concubine, la première épouse, la seconde épouse.
C'est ça, hein, c'est ça.
La première épouse protège la troisième, mais n'aime pas la seconde.
La seconde, généralement.
Voilà.
Oui. Et sa rivale.
Il y a des différences de génération aussi.
Comprennent qui pourra.
Comprennent qui pourra, mais c'était très frappant.
Oui. Alors, vous ne vous attardez pas beaucoup, en revanche, sur les petites amours de Victor Hugo, cette espèce de collection de jeunes femmes qui, à la fin de sa vie, lui donne le sentiment de rester
oui,
jeune.
Oui, oh, pas seulement à la fin de sa
oui,
vie.
Oui, d'ailleurs, mais...
Non, parce que... Non, alors là, il aurait fallu un énorme
bouquin.
Livre. C'était pas le propos. Et puis, il est vrai aussi que le Victor Hugo politique m'a beaucoup intéressée.
Oui.
Et ça nous ramène aussi à la condition des femmes quand il va en enquête parlementaire dans le Nord, qu'il descend dans les caves et qu'il voit ces femmes en haillons avec des enfants mourants, enfin, et qu'il rentre en disant « Messieurs, voilà ce que j'ai vu ». D'ailleurs, la moitié des parlementaires qui l'accompagnaient n'ont même pas pu descendre dans ces caves tellement ça sentait mauvais, c'était épouvantable. Et puis, il emmène tout de même Juliette tous les étés, ils partent à peu près un mois dans les provinces françaises, et là, à travers ses écrits et les notes que Juliette a prises pour lui, parce qu'elle écrivait beaucoup pour lui, on découvre aussi vraiment la misère, les enfants qui meurent.
C'est au cours d'un des voyages avec Juliette qu'il va apprendre évidemment la mort de Léopoldine, l'accident de Villequier dans la Seine. Léopoldine, sa fille qui s'est noyée.
Avec 8 jours de retard, parce qu'il n'y avait pas
Europe 1,
il n'y avait pas Internet.
À l'époque, c'était compliqué. Oui.
Il apprend ça par un journal, dans un relais de poste. Il leur faut 8 jours pour remonter à Paris. Quand il remonte, Léopoldine a été enterrée. Et ça, c'est un grand amour de sa vie aussi, Léopoldine.
Vous êtes allé voir l'exposition sur la famille, justement, sur Léopoldine et la famille.
Voir l'exposition. Il y a eu aussi une exposition précédente à la maison de Victor Hugo sur Héros Victor Hugo,
oui,
avec ses dessins très beaux.
Magnifique.
Et oui, c'est une famille très créative. Dans l'ensemble, que ce soit ses fils, sa femme qui écrivait. C'est une famille où on aimait l'art, où on aimait l'écriture. Il y avait une culture immense.
Je dis à nos auditeurs, si vous êtes parisien, ou parce que vous y résidez, ou parce que vous êtes en vacances à Paris, allez voir cette maison de Victor Hugo qu'on ne connaît pas forcément, qui se trouve donc dans l'angle de la place des Vosges.
Oui.
Et c'est cette maison qui a été, bien sûr, restaurée, remaniée, etc., mais qui a conservé non seulement l'esprit, mais les décors.
Oui.
Parce que qu'on oublie, c'est qu'en dehors, au-delà d'être un très grand écrivain, un homme politique, un grand amoureux, Victor Hugo était un décorateur à ses heures perdues.
Il est passionné de ça, à tel point qu'au bout de quelques mois de liaison, il emmène Juliette, profitant de l'absence d'Adèle, visiter sa maison, ce que tu vois, d'une délicatesse extrême, lui montre sa chambre à coucher.
Je ne pense pas que la délicatesse
là,
soit la première de ses qualités entre nous.
Il peut l'être, Il a été très délicat quand, par exemple, quand la fille de Juliette est morte, parce qu'ils ont chacun eu le grand deuil d'une fille, il l'a accompagnée au cimetière, il a été comme un père, il a été parfait, il a eu des gestes d'une grande générosité, mais c'est très contrasté.
Évidemment. Le contraste, l'émotion, la grande vie de Victor Hugo est dans cet ouvrage de Christine Claire, Victor Hugo amoureux, aux éditions Rabelais. Merci beaucoup, Christine
Merci
Claire, d'être passée nous voir. Thank you. ne s'en lasse pas d'écouter cette musique signée Charlie Chaplin. Une musique qui va jouer un rôle absolument essentiel désormais dans ses films. Vous savez qu'à partir de 1927, le cinéma devient parlant. Eh bien, Charlie Chaplin, lui, refuse de passer au parlant. C'est un cas unique dans toute l'histoire du cinéma. Lui estime que ce qu'il a à dire relève d'abord de la pantomime, relève du geste plus que de la parole. Il trouve les films parlants bavards et il va s'accrocher en revanche à la musique. J'ai toujours su, dit-il, que la musique m'était indispensable à créer une ambiance et rendre vivant, donc vraisemblable, une histoire et des personnages en situation. De la musique, j'en ai mis partout et toujours là où j'ai dû en mettre. Le son apporte la présence et la véracité, j'en conviens, la vie est le contraire du silence, mais le silence est un des éléments de la vie. J'ai fait mon deuil de Charlot de très bonne heure, savez-vous, ajoutait Charlie Chaplin. Le faire parler m'est apparu d'instinct comme une gageure impensable. Le moindre mot sorti de sa bouche aurait fait de lui quelqu'un d'autre.
Au cœur de l'histoire.
Sur Europe 1.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Et c'est le troisième épisode du Grand Destin de cette semaine consacrée à Charlie Chaplin. Alors lundi, nous avons découvert son enfance plutôt misérable dans les bas-fonds de Londres. Hier, nous avons parlé de son arrivée aux États-Unis. Nous allons nous intéresser avec vous, Franck Ferrand, aujourd'hui à l'œuvre de Charlie Chaplin.
Oui, cette arrivée aux États-Unis et cette entrée immédiate dans le cinéma, en tout cas lors de sa deuxième arrivée, si je puis dire, c'est assez extraordinaire d'imaginer que pendant les 10 premières années de 1914 à 1924, il tourne dans 74 films. Et ensuite, de 1924 à 1952, dans ces longs métrages qui vont faire sa célébrité, bien entendu, alors là, il n'y a plus en 28 ans que 7 films. Et ces 7 films sont autant de sommets de l'art cinématographique. C'est-à-dire que là, il se retient, il se réserve, si je puis dire, Charlie Chaplin. Alors, nous en étions restés hier, rappelez-vous, Anissa, je vous disais que la presse américaine se mettait à détester Chaplin, qu'on disait les pires horreurs sur lui. Alors, ça a commencé ça dès la guerre, hein, juste après l'entrée en guerre des États-Unis au printemps 1917. On commence à dénoncer cet homme qui continue à jouer comme si de rien n'était dans ses films. Il a apparaît pour un certain nombre de journalistes de Hollywood comme l'anglais embusqué. On va beaucoup lui reprocher tout ça. Et pourtant, il va tourner ce fameux film, vous savez, Charlot soldat. Et d'ailleurs, pendant le tournage de ce film Charlot soldat, il rencontre une toute jeune actrice qui s'appelle Mildred Harris et il va l'épouser, figurez-vous, le 16 octobre 1918. Ça, c'est le début d'une chronique amoureuse, d'une chronique sentimentale qui est considérée comme très scandaleuse dans une Amérique, ne l'oubliez pas, qui à l'époque est une Amérique complètement puritaine. Il y a les ligues de vertu, les réunions de vertu, etc. Vous imaginez, alors ça, là, Charlie Chaplin avec ses mariages, ça passe pas du tout. Ils ont eu un premier enfant d'ailleurs en juillet 19, mais qui n'a pas vécu, qui meurt au bout de 72 heures. Et le divorce d'avec Mildred ne va pas tarder puisqu'il a lieu en novembre 1920, et voilà les attendus, enfin voilà l'argument que donne le juge au moment de ce divorce. Charlie Chaplin est condamné pour cruauté mentale et dépravation sexuelle. Ça vous donne déjà une idée, vous voyez, de l'ambiance. Vous imaginez ce que la presse peut faire d'une chose pareille. L'an novembre 1924, il se remarie, et cette fois c'est avec une toute jeune fille de 17 ans, elle s'appelle Lita Gray. Eh oui, Lita Gray tenait un rôle dans La Ruée vers l'or, hein, bien entendu, c'était le rôle féminin. Et les parents Gray, lorsqu'ils apprennent que ce vieux satyre, si je puis dire, est en train d'épouser leur fille, alors là ils sont absolument furieux, ils veulent déclencher une action en justice. Dans la foulée va naître Charles Chaplin Jr., leur premier enfant. Ça se passe très mal en plus, parce que vous savez, c'est l'époque où Charlie Chaplin est en train de se lancer dans ses grands films. C'en est fini du temps des petits films de Max Hennett et de la Keystone, etc. Il s'agit maintenant de faire des œuvres. On avait déjà vu Le Kid, rappelez-vous, et puis bon, il y a eu l'opinion publique, etc. Et là maintenant, Charlie Chaplin considère chacune de ses œuvres comme
une sorte d'aboutissement. Et il est en train de tourner, en cette année 1926, il est en train de tourner Le Cirque. Et ça se passe très mal. Alors, ça a été un tournage. Moi, j'adore ce film. Je ne sais pas si vous aimez le Cirque de Charlie Chaplin. Lui, il détestait ce film. Il le détestait tellement qu'il avait même carrément supprimé le film de la liste de ses œuvres, vous imaginez. Ça lui rappelait sans doute de trop mauvais souvenirs. Moi, je trouve que c'est un film merveilleux, qui est plein d'inventions. Il y a une atmosphère formidable. Et pour cause, puisque Chaplin avait eu cette idée remarquable de créer un vrai cirque, avec le chapiteau, avec les roulottes, etc., avec un véritable zoo, des animaux qui pendant un an ont vécu là, dans les studios d'Hollywood, comme si c'était un véritable cirque, pour donner justement cette atmosphère, pour donner une épaisseur de vécu. Et on sait que, notamment, l'entraînement qu'il a fallu que Charlie Chaplin s'impose pour aller jusqu'au bout de son célèbre numéro de funambule, qui n'a pas vu ce numéro de funambule, j'allais dire, n'a rien vu dans le domaine de la pantomime. Hein. C'est un chef-d'œuvre absolu. L'entraînement qu'il a fallu qu'il s'impose et qui va le tenir pendant des mois, le fatigue, l'épuise. Et quand il rentre chez lui, eh bien, il y a la petite Lita Gray qui, vous imaginez, elle n'a même pas 20 ans. Mais qu'est-ce que je dis, elle a 19 ans. Elle s'amuse avec ses amis, il y a du monde partout. Charlie Chaplin veut rentrer dans sa chambre, il y a des gens qui sont, allez, on va dire, qui sont en train de danser. Enfin bref, un soir, il en a complètement assez. Il prend Lita, sa mère, ses affaires, son personnel, et il met tout le monde dehors, littéralement, à la rue. Scandale, immédiatement, la presse prend fait et cause pour cette pauvre Lita chassée du domicile conjugal. Il y a un second garçon qui naît là, à ce moment-là, d'ailleurs, Sydney. Et on peut dire de Lita qu'elle va bientôt être une riche divorcée, puisque pour préjudice et outrage, s'il vous plaît, voyez comme la justice américaine est bonne envers Charlie Chaplin, elle va obtenir $1 million de dommages et intérêts. Nous parlons $1 million de l'époque, hein, oui. C'est encore le dollar or à l'époque.
Somme aujourd'hui.
Oui, c'est une somme gigantesque, bien entendu. Alors, en 1933, Charlie Chaplin se remariera, cette fois avec la célèbre Paulette Goddard, la grande Paulette Goddard, dont il a fait une star grâce au film Les Temps Modernes, vous savez. Et puis, plus tard encore, alors ils divorceront à Mexico, 9 ans plus tard. Et puis, il épousera ensuite la fille du dramaturge Eugene O'Neill, Una O'Neill. Entre-temps, il y a eu toute l'affaire de John Barry. Je ne sais pas si vous vous rappelez cette histoire, cette John Barry qui disait qu'il était le père de son enfant, qui avait réussi à tromper la surveillance des gardiens dans la résidence de Beverly Hills. Et cette John Barry, elle arrive et elle braque sous le nez de Charlie Chaplin un pistolet, vous imaginez. Elle sera finalement expulsée en Californie. Ça ne l'empêchera pas de mener un procès en paternité que Charlie Chaplin gagne. Et néanmoins, en 1946, il va hériter une charge dont il se serait passé puisqu'il a la responsabilité matérielle de la petite fille née de tout cela. C'est Nancy Barry. Voyez un peu la somme de scandales. Et encore, je vous en épargne, on peut dire désormais que Charlie Chaplin, certes, est la plus grande star du monde, mais que dès qu'il se déplace quelque part, il y a ses regards noirs, il y a ses sifflets, il y a ses chuchotements, qu'il traîne avec lui comme une sorte de vapeur de soufre. Alors, pour changer un peu d'atmosphère, je vous propose d'écouter quelques notes de la bande originale du Cirque, ce film qu'il n'aimait pas et que nous adorons.
Original du film Le Cirque, sorti en 1928 et réalisé par Charlie Chaplin, et une musique composée par Charlie Chaplin lui-même. Restez avec nous sur Europe 1. Le troisième épisode du feuilleton du Grand Destin de la semaine consacré à Charlie Chaplin revient dans un instant avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.
Charlie Chaplin est à l'honneur toute cette semaine. C'est le grand destin de cette semaine avec un épisode chaque jour. Alors aujourd'hui, on vient de le voir avec vous, Franck Ferrand. Une vie cinématographique plutôt très fournie et une vie publique très controversée.
Oui, hein. Une vie privée surtout, très privée, oui, ouais. Très controversée. Alors, il y a eu le succès phénoménal de La Ruée vers l'or. Quand je parlais de chef-d'œuvre,
pas mal non plus, la ruée vers l'or quand même. Il y a des scènes là qui sont fabuleuses, le cirque donc. Et puis arrive le troisième de ces grands films, de ces grands chefs-d'œuvre de Charlie Chaplin, c'est Les Lumières de la Ville, City Lights, sans doute le plus émouvant, le plus beau, le plus, comment dirais-je, le plus désespéré des films de Charlie Chaplin. Le tournage commence, le cirque était sorti en janvier 28, entre parenthèses pour un film qui était tourné à partir du printemps 26, vous voyez qu'on avait pris son temps. En mars 28, commence le tournage de City Lights, qui va se passer assez mal, il faut bien le dire. Et pourtant, là encore, quel chef-d'œuvre, quelle maîtrise. Il y a ces scènes, vous savez, quand il est, j'adore moi, quand Charlot, parce que c'est encore le personnage de Charlot, passe devant la vitrine qu'il observe, qu'il regarde, et à chaque fois qu'il passe, il y a une trappe qui s'enfonce dans le trottoir et qui ressort, et à chaque fois qu'il passe, au moment où il pose le pied, hop, la trappe est là pour le soutenir. Ça demande sans doute des semaines de répétition, c'est une perfection dans son genre, avec une grâce, avec une vitalité extraordinaire. Et le problème, c'est qu'en 1927, donc, est paru ce célèbre film Le Chanteur de Jazz, premier film parlant, et en l'occurrence chantant, de l'histoire du cinéma, et que tout le monde sait comment ça se passe à Hollywood. Du jour au lendemain, allez hop, tout le monde se met à faire des films parlants. Et on dit à Charlie Chaplin, mais que faites-vous? Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y, il faut faire parler Charlot. Et ça, lui, ne veut pas. Alors, il y a ce moment tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était dans les années... fin des années 70, début des années 1980, il y avait cette série magnifique de Pierre Tchernia sur Charlie Chaplin, où il racontait la vie de Chaplin, avec beaucoup d'images, avec beaucoup de documents, etc. Si vous pouvez trouver ce document, je vous engage à le regarder, c'est un bonheur. Et un épisode entier était consacré au tournage des Lumières de la Ville, justement, parce que c'est un tournage problématique. Chaplin, d'un seul coup, perd son assurance, perd sa tranquillité, et on a l'impression qu'il ne sait plus comment diriger les comédiens, il ne sait plus comment mener les affaires. Vous savez, il y a cette scène de la jeune femme aveugle, bien entendu, qui va croire que le vagabond est un milliardaire puisqu'il descend d'une grosse limousine, elle entend claquer la portière de la limousine. Et Charlie Chaplin ne sait pas comment s'en sortir de cette scène, il la tourne dans tous les sens, c'est le cas de le dire. On arrête même carrément le tournage, vous imaginez, à l'automne de 1928, et on sait que pendant toute cette époque-là, Charles se pose des questions sur son art même et sur la nécessité de passer au parlant. Et il sait, lui, qu'il ne doit pas le faire. Ils viennent, dit-il, gâcher l'art le plus ancien du monde, l'art de la pantomime. Ils anéantissent la grande beauté du silence, car c'est la beauté qui importe le plus au cinéma. L'écran est pictural. Je ne me servirai pas de la parole dans mon nouveau film Les Lumières de la Ville. Non, je ne m'en servirai jamais. Pour moi, dit-il, ce serait fatal. Voyez que c'est quasiment une déclaration de guerre à cette industrie du cinéma qui déjà ne l'aimait pas trop, peut-être parce qu'il réussissait très bien, peut-être parce qu'il était d'origine anglaise, peut-être parce qu'il avait créé, ne l'oublions pas, sa propre compagnie United Artists contre les grandes compagnies hollywoodiennes de l'époque à laquelle il échappait. Donc tout ça fait qu'évidemment il était déjà pas très bien vu. Et là, bien sûr, son obstination contre le parlant va lui valoir de nouvelles attaques. Alors, il vient à Paris pour la première des Lumières de la Ville, et on lui pose bien sûr beaucoup de questions. On dit, Monsieur Chaplin, allez-vous faire enfin un film parlant? Et pourquoi les personnages des Lumières de la Ville ne parlent-ils pas? Je vous rappelle que le personnage principal est aveugle dans Les Lumières de la Ville, au passage. Hein, donc ça fait, elle est non seulement aveugle, mais elle est muette aussi. Pourquoi je ne parle pas dans City Lights? Répond Chaplin. Je ne l'ai pas fait pour cette simple raison que personne ne m'a encore dit pourquoi j'aurais dû le faire. Voyez-vous, lorsque je me vis demeurer seul partisan du film muet, j'avoue que si le doute ne me saisit à aucun moment, je me suis trouvé assez perplexe. Je me suis remémoré alors la scène de la lettre dans Charlot Soldat. Oh mon Dieu, quelle merveille! Le réveillon manqué de la ruée vers l'or. Et cela... la scène du camion où je retrouve Jackie dans le Kid et d'autres. Tout cela me confirma dans ma résolution première. La parole n'aurait rien ajouté à tout cela. Au contraire, la pantomime, qui est le plus ancien des arts, exprime mieux les émotions que la parole. Enfin, avantage matériel sur la parole,
La pantomime est un langage universel. Les petits Chinois, les petits Hindous me comprennent tous. C'est vrai qu'après tout, pour se faire comprendre, Charlie Chaplin a la merveilleuse musique de ses films, et notamment celle de City Lights.
De la ville avec cette musique inoubliable. En tout cas, Franck Ferrand, une chose est sûre, vous nous avez donné tous envie de revoir les films de Charlie Chaplin. Et je crois que cette semaine, on va tous s'y mettre.
Et il y en a d'autres à venir demain, vous allez voir.
Et bien voilà, donc il faut s'y mettre dès ce soir. La suite de ce grand destin consacré à Charlie Chaplin sur Europe 1, c'est demain, bien sûr, entre 14h et 15h.